Moi, j'ai tendance à dire que, alors, le chef du protocole, mais ça peut être le grand chambellan, peu importe comment on l'appelle, ou j'ai une équipe fantastique de chefs de projet qui font ce métier-là aussi avec une appellation différente. On est des metteurs en scène qui dirigent des artistes qui vont faire un rôle juste une fois, sans avoir répété ce rôle. Et par conséquent, il faut être prêt à tout. Bonjour, je suis Laurent Bellini et j'exerce les fonctions de chef du protocole de la ville de Paris.
Je suis
le podcast des métiers insolites et méconnus
et des personnalités inspirantes.
Salut Laurent.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, merci.
Merci de me recevoir à la mairie de Paris, à ton magnifique bureau, où il y a Jean Moulin, le Charles de Gaulle et R2-D2. On va quand même parler d'R2-D2, toi et moi quand même, mais on va avant tout parler de ton job, parce que dans Je suis, on présente des métiers qui sortent de l'ordinaire, qui sont insolites, et le métier de monsieur est très insolite, puisque tu es, Laurent.
Je suis chef du protocole de la ville de Paris.
Alors, la ville de Paris, on sait tous ce que c'est. Chef, on sait ce que c'est. Protocole, on a du mal. Qu'est-ce donc le chef du protocole ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Le chef du protocole, c'est celui qui, avec son équipe, va orchestrer tous les événements protocolaires de la ville de Paris. Événements protocolaires, ce sont des événements qui vont de l'inauguration d'une nouvelle rue au vernissage d'une exposition, par exemple, avec des autorités qui doivent être ordonnées les unes par rapport aux autres.
Alors disons c'est du lourd, parce qu'il y a des huiles, si je puis m'exprimer ainsi, des VIP, des autorités, des chefs d'État parfois.
Absolument.
Et alors comment tu es arrivé là-dedans ? Parce que tu as une histoire assez étonnante, tu fais ton service militaire comme moi, on est de cette génération-là, toi et moi, puisqu'on a à peu près le même âge. Et là, allez raconte-nous, et puis après on va évidemment rentrer dans le détail de ta mission quotidienne.
Pendant mon service militaire, j'ai vu passer une offre d'emploi, si je puis dire, qui proposait de rejoindre le ministère des anciens combattants à l'époque pour renforcer l'équipe du protocole qui préparait tous les cinquantenaires du débarquement, de la libération de la France. Donc on est en 1993. J'ai trouvé ça très intéressant. Je suis passionné d'histoire, donc je me suis dit que là, j'allais être au cœur de l'action. J'ai postulé et on m'a accepté bien volontiers. Et puis on m'a surtout proposé de rester après mon service militaire.
Alors ça c'est génial parce que tu vas travailler dans un ministère pendant de très nombreuses années avant d'arriver à la ville de Paris. Raconte-nous un petit peu tout ça parce que tu as rencontré des politiques, tu as rencontré plusieurs présidents de la République.
Absolument.
Tu veux nous dire, donner quelques petits tips et quelques petites infos, pas trop croustillantes, rassurez-vous chers auditrices, chers auditeurs, mais on en discutera plus tard. Mais tu rentres dans cette magnifique institution, tu étais bidasse, comme on disait chez nous, et puis... Maintenant, tu as un vrai job. Et là, comment tu fais ? Parce que tu ne rentres pas tout de suite chef, si je puis m'exprimer ainsi.
Non, je commence par être l'adjoint du chef du protocole du ministère des anciens combattants, qui malheureusement est très très malade, qui va devoir s'arrêter de travailler, qui va finalement décéder. Et à ce moment-là, le ministre de l'époque me dit « Laurence, c'est très simple, tu vas être adjoint, mais tu vas être chef aussi ». Et je vais entre 1994 et 1995, avant que je sois véritablement confirmé, occuper deux fonctions en une seule.
Tu as une formation ou c'est sur le tas que tu le fais ?
Alors la formation sur le protocole, objectivement, ça n'existe pas. Donc il faut apprendre sur le tas et surtout se dire qu'on va devoir indiquer à des personnes qui ont un rang très élevé ou des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, je pense aux anciens combattants, la place qu'ils vont devoir occuper, les actions qu'ils vont devoir faire. Et il faut se sentir extrêmement légitime pour ça. Donc, j'ai étudié le seul texte qui existe sur le protocole, un décret passionnant, et puis toute la littérature qu'on peut trouver sur la bienséance, le savoir-vivre, et puis sur les traditions, les usages républicains. Et à partir de là, on se fait sa propre culture, sa propre formation, et puis on se sent plus légitime chaque jour, tout en restant très humble, parce que le protocole ne doit pas être visible. Il doit assurer le bon déroulement des manifestations, mais justement, il ne doit pas être visible.
Par contre, s'il n'y en a pas, c'est la cacophonie.
Ça peut rapidement être le bazar, oui. Il m'est arrivé d'assister à des manifestations où l'autorité qui la présidait se retournait à droite, se retournait à gauche pour voir si quelqu'un était là pour la guider ou lui dire ce qu'elle avait à faire après. Et c'est là où on ressent aussi l'utilité du protocole, c'est qu'il est là pour rassurer parce qu'il est la personne idéale au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes informations. Et donc, ça permet d'avancer sans problème et de poursuivre la manifestation.
Donc, si je résume, c'est une sorte de cadre, mais totalement invisible.
C'est ça, c'est bien résumé.
Dans ce protocole, ici à la ville de Paris, mais auparavant, dans ce ministère des anciens combattants, qu'est-ce que tu as, entre guillemets, dirigé comme protocole? J'imagine qu'il y a peut-être du 14 juillet.
Alors, le 14 juillet, c'est un cas particulier parce que c'est un défilé militaire. Et par conséquent, c'est l'autorité militaire qui va le gérer de A à Z. J'intervenais sur le 14 juillet uniquement sur la partie invitation quand j'étais au ministère, parce que le ministère des anciens combattants avait disposé d'un certain nombre de cartons d'invitation pour le défilé, pour ses ressortissants.
Entendu. Alors, allez, parlons de ce que tu fais actuellement. À la ville de Paris, dernièrement, il y a eu, puisque nous sommes en novembre, il y a eu évidemment tout le protocole et la célébration de cet abominable événement du 13 novembre. Hein, c'était déjà il y a 7 ans. Je n'habite pas très très loin des Champs-Élysées. On ne pouvait pas y accéder. Ce n'est absolument pas de ta faute, c'est normal, parce qu'on sécurise le périmètre. Mais quelque chose comme ça, j'imagine que ça doit être extrêmement complexe et il doit y avoir beaucoup de tensions, comme d'ailleurs tous les événements auxquels tu participes finalement, Laurent.
Alors, l'exemple de la commémoration des attentats du 13 novembre est très très intéressante parce qu'au-delà du protocole, il y a effectivement, ce que tu disais, énormément d'émotions. C'est extrêmement sensible. On a affaire à des familles qui ont vécu un drame. On est tous à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vécu ces événements de très près. Et on est du coup complètement impliqué, y compris dans nos chairs nous-mêmes. Donc, tout en assurant le bon déroulement des manifestations sur un cérémonial qui est extrêmement simple et extrêmement sobre, on a aussi cette tension et cette émotion qui sont extrêmement palpables et qui conditionnent aussi le comportement de chacun et chacune d'entre nous.
J'imagine, en effet. Alors, là, il y a Madame Hidalgo, j'imagine.
Absolument. Anne Hidalgo met un point d'honneur à être présente sur ces manifestations, d'autant plus qu'elle était parmi les premières arrivées le soir de ce tragique événement.
Il y a le président de la République qui vient.
Certaines années, les anciens présidents de la République ont pu venir. Cette année, on avait une personnalité de haut rang, puisque la première ministre représentait le gouvernement et l'État.
Donc Madame Borne qui était présente.
Absolument.
Entendu. Comment ça se passe, ces grands événements? Alors pas nécessairement les protocoles des attentats du 13 novembre, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus, en tout cas de moins douloureux, pardon, mais comment ça se passe? Au tout début, on te dit, Laurent, il va y avoir tel événement, tu te débrouilles, c'est ça?
Alors, c'est presque ça, on va dire. Ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire la maire et ses adjoints, ont un programme à suivre sur lequel ils ont été élus. Et dans ce programme, il y a un certain nombre de choses qui vont nécessiter la mise en œuvre d'un événement. Je prends par exemple l'inauguration d'une place avec une dénomination nouvelle. Eh bien, on va être chargé de mettre en œuvre cette inauguration en prenant contact avec la famille, naturellement, de la personne honorée pour voir ce qu'ils souhaitent. Et puis, on va mettre en musique tous les services de la ville et tous les services extérieurs à la ville qui peuvent être concernés à un moment donné par la mise en œuvre de cette cérémonie.
Alors, ça fait du monde, j'ai l'impression.
Ça fait du monde. On n'a pas un management fonctionnel sur ces services, mais on a un management qui permet de coordonner ces actions. L'action des fleuristes qui vont mettre un peu de décorum sur la manifestation, l'action de la direction de la voirie ou de la propreté pour le nettoyage du site, la direction de la police municipale pour la sécurisation, la direction qui va nous permettre d'avoir des chaises pour asseoir les invités qu'on attend. Et tout ça, ça se coordonne suffisamment en amont pour que le jour J, on n'ait pas d'inquiétude particulière à gérer et qu'on puisse se consacrer à son rôle de maître de cérémonie, c'est-à-dire animer la manifestation de façon à la rendre fluide, à la rendre intéressante et à faire que les gens qui prennent la parole sachent le moment où ils doivent se lever pour prendre la parole.
Tu es d'accord avec moi, Laurent, qu'un événement ne se passe jamais comme on l'a décidé sur le papier? J'imagine que tu as dû gérer des tonnes et des tonnes d'ennuis.
Des tonnes et des tonnes d'ennuis, je dirais pas forcément cela. En fait, le protocole, il doit avoir la faculté de s'adapter à toutes circonstances. Ça veut dire que, au moindre imprévu, on doit être en capacité de réagir. Et plus on maîtrise le déroulement de la manifestation, plus on est en capacité de modifier l'ordre de séquence, par exemple, pour justement faire en sorte que tout se passe bien. Imaginons par exemple qu'on attend d'un musicien qui va animer une fois, deux fois au cours de la cérémonie avec un morceau de musique. Le musicien est en retard. Ben, on va changer l'ordre de passage de ce musicien pour qu'il puisse intervenir au moment où il doit le faire.
Et sans que personne ne s'en aperçoive.
Absolument.
Mais alors, tu es une sorte de régisseur, une sorte de MC, si je puis m'exprimer ainsi, maître de cérémonie, comme tu l'as dit.
Moi, j'ai tendance à dire que... Alors, le chef du protocole, mais ça peut être le grand chambellan, peu importe comment on l'appelle. Ou j'ai une équipe fantastique de chefs de projet qui font ce métier-là aussi avec une appellation différente. On est des metteurs en scène qui dirigent des artistes qui vont faire un rôle juste une fois, sans avoir répété ce rôle. Et par conséquent, il faut être prêt à tout.
Et en plus, tu as des stars.
Et parfois, on a effectivement des stars.
Alors, pas nécessairement des stars de cinéma ou de musique, mais évidemment des chefs d'État, des gens comme ça, qui, pour certains, doivent avoir un ego quelque peu surdimensionné, peut-être.
Alors, probablement, certains, oui, sans citer de nom. Après, on se rend compte souvent que ce sont les entourages qui ont plutôt tendance à surdévelopper leur ego que les personnalités elles-mêmes. Ça, c'est très intéressant de le constater. Et au fil de ma carrière, quand on me rétorquait « le ministre a dit que » ou « le ministre veut que », j'avais quand même tendance de temps en temps à vérifier.
Ce qui veut dire que chez les grands, tout est grand et ils ne vont pas venir t'embêter en disant « tiens, il a manqué ci ou il a manqué ça ». Ils font leur job et toi, tu fais le tien et ils le respectent.
Oui, avec la petite nuance qu'il faut toujours se méfier des personnalités qui disent « vous savez le protocole, moi je m'en fous un peu, mettez-moi où vous voulez ». En général, ce sont ceux qui ont le plus conscience du rang qu'ils doivent occuper et ils y sont très très attachés.
Tu me disais tout à l'heure, Laurent, qu'il y avait un ancien Premier ministre qui te faisait une confiance absolue. Alors je ne sais pas si on peut donner son nom.
Oh si, je pense que ça ne pose pas de problème. En fait, quand Édouard Balladur était Premier ministre, son cabinet lui avait très clairement indiqué qui j'étais dans le dispositif. Et entre 1993 et 1995, Édouard Balladur a présidé de nombreuses cérémonies dans le cadre de la cohabitation de l'époque. Et à chaque fois qu'il descendait de voiture, j'avais droit d'abord à un bonjour, ce qui est plutôt sympathique. Et puis, ah, vous êtes là, donc vous me dites ce que j'ai à faire. Et ça, pour le responsable du protocole, c'est idéal, parce que on sent la confiance qui est attribuée et du coup, on n'a pas à se préoccuper du reste. On sait qu'on doit avancer, on sait où on doit avancer et on a juste à dire au Premier ministre, vous faites trois pas en avant, deux pas en arrière, une pirouette sur le côté et puis on va aller prendre un man full à la demande de votre cabinet.
Un véritable metteur en scène, comme tu le disais, hein. Plus un chef d'orchestre.
Plus un chef d'orchestre.
Plus gérer tout ce qu'il y a autour, tu disais la voirie, les musiciens, ne serait-ce que les chaises. Laurent, je sais que ça fait très longtemps que tu fais ça, ça fait une trentaine d'années maintenant que tu fais ça.
Oui.
Il y a des fois, tu dois pas endormir, j'imagine, parce que franchement, il doit y avoir de la tension et puis une pression d'enfer parfois.
Alors, il y a certaines manifestations, effectivement, qui provoquent quelques nuits sans sommeil, ça c'est évident. Et puis, il y a parfois aussi l'accueil de certaines personnalités qui peuvent faire quelques nœuds à l'estomac dans les heures, voire dans les jours qui précèdent.
Laurent, tu parlais à l'instant même de Monsieur Balladur, qui était notre Premier ministre, mais tu as rencontré évidemment des présidents de la République. Ce qui est tout à fait normal, si je puis m'exprimer ainsi, quand on fait ton métier. Parle-nous de Jacques Chirac, parce qu'il a une très très bonne réputation, mais tu vas la confirmer, c'est un homme extrêmement affable.
Alors ça a été vraiment une rencontre, entre guillemets, parce que je n'étais pas un intime du président de la République naturellement, mais je le rencontrais régulièrement sur plusieurs fois par an sur les cérémonies que le ministère organisait. Et c'est vrai qu'à chaque arrivée du président de la République, on avait droit à un « bonjour, comment ça va? Vous êtes là depuis longtemps ?» Quelque chose de très très, de très, très sympathique. Et à plusieurs reprises, je lui ai indiqué des personnes en particulier. « Monsieur le président de la République, permettez-moi de vous présenter Madame Untel, Monsieur Untel. » Et systématiquement, c'était « oh, mais monsieur Untel, je le connais depuis très longtemps, bonjour, comment ça va ?» Et voilà, et il avait ça dans le sang. Le contact avec le public, le contact avec la population, il avait vraiment ça dans le sang et c'était très plaisant à observer. Et vous prenez, pendant ce temps-là, d'énormes leçons de politique. Parce que on voit la sincérité dans le regard, dans la poignée de main, et c'était extrêmement généreux, cette attitude de Jacques Chirac en public.
Donc ce n'était pas du fake?
Non, du tout.
Ce qui, comme tu le disais, se ressent. Et j'imagine que le public le ressentait lui aussi.
Le public le ressentait et on le voyait dans le regard et dans l'échange qu'il pouvait avoir avec ce public. il quittait rarement l'Arc de Triomphe avant d'avoir serré la main de tout le monde.
Ah, carrément?
Ah oui, oui.
Ok, donc finalement, il était tout à fait fidèle à sa réputation. Un homme qui aimait les gens.
Un homme qui aimait les gens, absolument.
Et c'était tout à fait naturel, l'histoire, c'est absolument pas.
Ah non, non, c'était pas forcé du tout.
Oh, écoute, c'est absolument incroyable. J'imagine que tu as rencontré d'autres présidents, je le sais, mais on n'en parlera pas. On va rendre hommage à la mémoire de feu le président Chirac.
Qui a été maire de Paris également pendant très longtemps.
Absolument, mais tu ne l'as pas connu à l'époque en tant que maire de Paris.
Alors, je l'ai connu en tant que maire de Paris du moment où j'étais au ministère parce que je l'accueillais sur des cérémonies où il était maire de Paris.
Alors tu vois, je manque à tous mes devoirs, autant pour moi. Absolument, c'est les années 90, donc il l'était encore. Mes plus plates excuses, là, c'est on voit que ma mémoire me fait absolument défaut. Bon, les plus jeunes qui vont nous écouter, on parle des années 90. Laurent, il a fait son service militaire, on appelait ça le SERPIN, hein, le service NAT. Tu as fait combien, 10 mois, 12 mois?
10 mois.
On est de la même génération, félicitations. Bon, eh ben, écoutez, les plus jeunes, vous verrez que oui, il y avait des mecs qui crapahutaient en kaki. C'est pas la pire des choses. Et après, on se retrouve dans de très belles institutions. Et regardez la carrière que fait Laurent. Alors, je parlais des militaires à l'instant même, on va parler de sécurité. Parce que qui dit événement aujourd'hui avec des chefs d'État, des VIP, des ultra-VIP? Aujourd'hui, tu me disais que la sécurité était vraiment très prégnante, beaucoup plus qu'auparavant, je suppose.
Elle est beaucoup plus présente. On suit tous et toute l'actualité. On voit les drames qui peuvent survenir. On n'est pas à l'abri non plus de gens un peu perturbés qui vont attraper un fusil et qui vont tirer dans le tas. On a encore eu un exemple récent aux États-Unis dans une discothèque. Ça peut arriver sur n'importe quel rassemblement sur la voie publique. Et on est donc aujourd'hui obligé de prendre en compte de façon extrêmement présente la sécurité à la fois des autorités, bien entendu, mais aussi du public qui est aux premières loges également.
Laurent, ça fait bientôt 30 ans que tu fais ce métier. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut rentrer dans ton métier? Alors ton métier est totalement inconnu, il n'y a pas de formation, tu nous parlais d'un décret, un seul décret, et Dieu sait si nous on s'en pondre en France. Quel conseil tu donnes à un jeune, ou à moins jeune, tiens?
Je dirais qu'il faut être passionné. Tout simplement, parce que c'est accepter de travailler un 1er mai, par exemple, parce que la tradition à Paris veut que le marché international de Rungis offre le muguet à la maire de Paris, et ça se passe le 1er mai, et qu'on enchaîne ensuite sur le bouquet de muguet de la République de Montmartre, qu'on accueille à l'hôtel de ville également, et ça se passe le 1er mai, donc il faut accepter de travailler le 1er mai, il faut accepter de travailler les week-ends, les jours fériés, parce que les jours fériés sont raccrochés à des commémorations, et penser aussi qu'on travaille pour quelque chose qui nous dépasse. En l'occurrence, pour moi, c'est l'image de la ville, c'est l'image de la maire de Paris, c'est tout ce qui peut donner un retentissement, que ce soit local, régional, national ou international à cette ville, que j'adore profondément. Et je pense que le protocole, qui n'est pas de la communication comme on pourrait l'entendre au sens pur, mais qui est une forme d'image qu'on peut donner à l'extérieur, eh bien, c'est voilà, il faut être passionné, engagé et penser qu'on travaille pour quelque chose qui nous dépasse.
Alors, tu parlais de Madame la maire de Paris, Madame Hidalgo. Allez, entre toi et moi, entre nous, elle est sympa.
Ah ben, moi, je l'adore.
Bon, tout est dit. C'est vrai qu'Anne Hidalgo a l'air d'être une femme tout à fait abordable, accessible.
C'est une femme de conviction, et quand on est une femme de conviction, on n'arrive pas là où elle est sans parfois se montrer peut-être un peu abrupte. Il faut juste qu'elle défende la place qu'elle a dans un monde qui reste encore extrêmement macho, on va dire.
On est bien d'accord, et de mémoire, elle était inspecteur du travail. Hein.
Inspectrice du travail.
Inspectrice, honte à moi, c'est vrai, mon Dieu. Elle était donc inspectrice du travail, et tu disais que c'était un monde très macho. Je viens de faire une très très belle cagade machiste, pardonne-moi, et tu as bien fait de me reprendre. Donc une femme de conviction, une femme plutôt adorable et sympathique. Elle sait où elle va, elle a du courage.
Elle a beaucoup de courage, elle se consacre avec passion. Elle aussi, à Paris, aux Parisiennes et aux Parisiens, qui ne s'en rendent pas forcément tout le temps compte. Et c'est un petit peu dommage.
Laurent, je voudrais parler de 2024. Est-ce que tu es de près ou de loin amené à travailler sur ce grand événement qui va faire le rayonnement de la France et de Paris dans quelques mois?
Alors, j'y suis pour le moment de loin, mais plus les mois vont avancer et plus j'en serai de plus en plus près, on va dire.
Il y a des chances. Alors, grosse pression évidemment pour toi, ou finalement tu gères ça en te disant « c'est bientôt, mais j'ai tellement l'habitude que il y aura de la pression, je le sais, mais je sais que je vais aussi bien manager la chose ».
Non, c'est quand même une très très grosse pression parce que même si j'ai eu l'opportunité d'avoir à manager ou à participer à très grands événements nationaux, voire internationaux, là on est quand même sur une autre distance, si je puis dire, et on a vraiment le monde entier qui a les yeux rivés sur Paris, donc on n'a naturellement pas droit à l'erreur. La ville dispose d'équipes extrêmement motivées aujourd'hui, qui travaillent d'arrache-pied sur les projets qui vont voir le jour dans les mois à venir, et puis de toute façon, on doit être prêt, donc on le sera.
Je te fais totalement confiance, je sais que monsieur a trop l'habitude de ce genre de choses-là, et 2024, ça fera 30 ans, pile poil que tu fais ce métier. Donc c'est aussi une commémoration très personnelle.
Absolument, là, on la commémorera en petit comité, ce sera plus simple que les JO et les Jeux Paralympiques.
C'est certain. Tu parlais de ton équipe tout à l'heure, t'en as combien à manager des gens comme ça, et de manière directe bien sûr, mais aussi indirecte sur certains événements, parce que c'est plus ou moins costaud. Allez, ton équipe directe, c'est combien de personnes ?
Mon équipe directe, le département du protocole, c'est 40 personnes.
Ah, quand même ?
Oui, 40 personnes parce que, en fait, le protocole intervient sur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel de ville et tout ce qui se passe à la demande de l'exécutif sur le territoire parisien. Ça veut dire que dans mon équipe, j'ai aussi bien les agents de salon qui s'occupent du maintien en état des salons de réception de l'hôtel de ville, les aménageurs qui vont mettre en œuvre les différents aménagements nécessaires à l'exécution d'un événement. C'est la mise en place de 50, 100, 200 chaises en format théâtre, en format conférence, l'installation sur scène de fauteuils et de petites tables en plateau télé, un directeur technique qui va assurer la coordination de tout ce qui va être son, lumière et image, et puis des chefs de projet cérémonial protocole qui vont, eux, monter de A à Z l'événement qu'on nous confie.
Alors, ces chefs de projet, ils ont quel background ? C'est des gens qui ont fait Sciences Po ? C'est des gens qui font de la com ? C'est qui ?
C'est très variable, en fait. Parmi l'équipe de chefs de projet, j'ai une personne, effectivement, qui a fait un institut d'études politiques. J'en ai un autre qui est arrivé tout jeune à l'hôtel de ville et qui, par la force du poignet, a acquis expérience, expertise et compétences et qui, aujourd'hui, est d'une autonomie total. Enfin, je lui fais une confiance absolue parce que je sais que les dossiers qu'il monte, j'ai aucun souci là-dessus. Je recrute un petit nouveau qui va arriver le 1er décembre et qui, lui, vient de la gestion de projet et un peu de la communication, mais qui a déjà travaillé dans un service du protocole. Voilà, ce sont des profils assez variés, mais qui partagent tous en commun cet intérêt pour l'hôtel de ville. Aucun n'est blasé le matin en arrivant. Tous se disent combien ils ont de la chance de travailler dans un bâtiment qui a fait l'histoire de Paris, dans lequel la République a été proclamée à plusieurs reprises. Donc c'est quand même très symbolique. Et puis qui sont vraiment aussi passionnés par leur travail et qui ne comptent pas leurs jours, qui ne comptent pas leurs heures.
Je crois qu'on n'a pas le choix, comme tu l'as dit. Hein. Il faut être passionné ou passionné.
C'est ça. Passionné ou passionné, il n'y a pas d'autre issue.
Ou éventuellement passionné.
Ou éventuellement passionné.
Félicitations, quel talent, merci beaucoup Laurent. Donc une quarantaine de personnes sous ta coupe, entre guillemets, que tu manages aujourd'hui, mais de manière indirecte sur un très gros événement, ça peut monter à combien de personnes ? 300, 400, plus ?
Non, on n'ira pas jusque là quand même. Ça peut monter, on va dire, sur un très 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 gros événement, on pourrait monter jusqu'à une cinquantaine, une soixantaine.
Ah, tout de même, ok. Donc encore une fois, du stress, mais tu maîtrises. Et puis quelque part, j'imagine que ce stress, c'est aussi un véritable plaisir.
C'est pas forcément du stress d'ailleurs, c'est plutôt du trac. Et le trac, pour moi, c'est une énergie positive. Le stress, ça ne l'est pas. Dès l'instant, ce que je disais tout à l'heure, dès l'instant où on se sent légitime dans ses fonctions, où on sait qu'on est entouré de gens compétents, ça doit rouler. D'une façon ou d'une autre, ça doit rouler. Et le trac, ça va être de devoir gérer, par exemple, quelque chose d'inattendu. Une autorité va me demander de raccourcir une séquence parce que c'est trop long pour des anciens combattants qui sont un peu au soleil et qui commencent à pas bien se sentir. Et là encore, il faut connaître le déroulement, il faut savoir comment les choses se passent pour justement arriver à raccourcir les choses, à anticiper, à superposer deux séquences qui peuvent se superposer. Voilà, c'est tout l'art et la manière d'inventer dans l'urgence et de s'adapter.
Alors Laurent, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier ?
C'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de choses. Je pense que, si, la réponse en fait, elle est très claire. Ce que je kiffe le plus, c'est qu'il m'a permis et qu'il me permet encore de rencontrer des personnes absolument extraordinaires. Et qu'il m'a permis de, de faire des choses complètement improbables, que je n'aurais certainement pas faites dans un autre métier, et qui aussi sont source d'humilité. En fait, beaucoup de gens pensent que le chef du protocole, il a beaucoup de pouvoir. En fait, il n'en a pas du tout de pouvoir, mais il le met en scène, ce pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Le général de Gaulle disait que le protocole, c'était l'expression de l'ordre dans la République. Mais c'est ça, en fait. On met de l'ordre dans la République, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau de la collectivité ou de l'État, on met de l'ordre dans toutes les manifestations extérieures qu'on est amené à organiser pour qu'il y ait de la cohérence, pour qu'il y ait de la fluidité. Et pendant ces manifestations, on est amené à croiser, à rencontrer des personnalités extraordinaires. J'ai des souvenirs en parlant qui me remontent à la pelle. Deux exemples. Passer toute une journée avec Tom Hanks au moment de la commémoration du débarquement de Normandie, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, effectuer un déplacement à Auschwitz avec Madame Simone Veil, ça laisse des traces.
Ah oui.
Indéniablement.
Alors là, tu viens nous citer deux extrêmes absolus. Un type formidable comme Tom Hanks. Tu me disais hors antenne que c'est un gars absolument charmant comme on l'imagine.
Adorable.
Il t'appelait Mr. Protocol.
Absolument.
Et je ne trahis rien en disant que tu as une photo avec lui.
Oui, et toute l'intelligence du personnage, c'est qu'il s'est prêté au jeu des photos toute la journée. Alors, naturellement, au fond de moi, je me disais, oh, une photo avec Tom Hanks, ce serait quand même bien. Mais par respect et par dignité, je n'allais pas lui en demander une. Et en fait, c'est lui, à la fin de la journée, qui m'a dit, mais au fait, Mr. Protocol, on n'a pas eu de photo ensemble. Allez, on y va. Et il m'a attrapé par les épaules et on a fait une photo ensemble.
Non, le kiff total. Et l'autre personne, alors là, bon...
Madame Veil.
Alors là, on peut pas faire plus grande dame. C'était quel genre de femme? Elle était chaleureuse, elle devait impressionner, parce que c'est pas de prime abord la femme la plus chaleureuse du monde, hein, Madame Veil.
Une femme très, très impressionnante, avec une lucidité dans le propos et dans le regard, extrêmement... extrêmement impressionnant également, et d'avoir effectué ce déplacement à Auschwitz avec elle et avec le secrétaire d'État aux anciens combattants de l'époque, Hubert Falco, c'était quelque chose de très, très, très impressionnant, de très émouvant, un moment que je ne peux pas oublier, vraiment.
Oui, j'imagine. Alors là, forcément, il n'y a pas grand-chose à dire, en plus, avec une rescapée. Parce qu'elle avait expliqué, on l'avait vu ça à la télé, qu'elle savait construire des murs et qu'elle avait appris ça en déportation.
Absolument.
Elle avait répondu ça du tac au tac au journaliste qui lui avait dit « Tiens, vous faites ça bien, vous maniez bien la truelle. » Et cette femme avait été déportée, c'est une femme absolument absolument incroyable. C'est la famille Veil est une femme, est une famille, pardon, j'en suis ému, pardon, totalement incroyable. Donc tu as rencontré des gens fantastiques, on vient de parler de Madame Veil, de Tom Hanks, donc là, l'autre extrémité, si je fais ma mémoire ainsi, des chefs d'État, des VIP, et justement, Laurent, avant qu'on se quitte, il faut que tu nous parles d'un truc qui m'a fait exploser de rire, mais finalement, je n'y pense pas, mais quelque part, tu es un peu des fois la baronne de Rothschild.
Les plans de table. Alors, en comparaison, on m'a parfois qualifié de Stéphane Bern de la République, ce que je trouve beaucoup plus flatteur.
On est d'accord, pardon.
En plus, j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour Stéphane Bern et ce qu'il fait.
C'est réciproque, on est d'accord.
Les plans de table, oui, alors ça fait très mondain le côté plan de table, naturellement. Mais les plans de table sur des repas officiels, bah, il faut prendre en compte le protocole naturellement, mais en plus, il faut prendre en considération les possibles mésententes que des convives peuvent avoir entre eux. Parce que ce qui est acceptable sur une tribune où des gens assistent à un événement, l'est beaucoup moins autour d'une table où la tension entre deux personnes peut être très rapidement palpable et perturber le bon déroulement du repas.
On est d'accord, mais alors dans ces cas-là, comment tu peux esquiver les mauvaises rencontres si je puis m'exprimer ainsi ?
On essaye de jouer sur la symétrie des places. On sépare deux personnes côte à côte qui ne s'entendent pas en les mettant d'une certaine façon presque face à face. Et ça veut dire qu'ils sont un peu moins amenés à se parler ou à échanger des regards.
Que c'est mal, hein. Mon Dieu. Alors finalement, si je résume un petit peu les choses, tu fais ce métier par le plus grand des hasards, alors que tu faisais ton service militaire. Tu deviens une sorte de Z6PO ou 6-3PO. En plus sympa, hein.
Oui, parce que... Alors la référence est intéressante, puisque je suis un grand fan de La Guerre des Étoiles. En fait, j'ai deux très grands héros dans ma vie, Jean Moulin et Ben Obi-Wan Kenobi.
Ah, alors, Jean Moulin, fantastique, préfet... Dans les années 40, tué par Klaus Barbie, un frangin également, mais ça c'est très personnel, donc bravo à lui. Et Obi-Wan Kenobi, c'est une autre paire de manches.
Ils ont tous les deux la même passion pour la République.
Bien vu. Bien vu, très 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 bien vu. Alors, la blague sur 6PO, c'était évidemment pour parler de R2-D2, parce que sachez-le, chers auditrices, chers auditeurs, je ne trahis rien, Laurent, en disant ça, il y a un magnifique R2-D2 qui trône sur le bureau de Laurent, et Laurent est dans un très 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 beau bureau, et il y a évidemment la photo de feu Jean Moulin, et il y a aussi R2-D2, tu n'as pas de sabre laser ?
Si.
Forcément avec Obi-Wan Kenobi, ne pas avoir de sabre laser, ce serait quand même dommage. Et donc tu as un sabre laser, on ne dira pas où il est, parce qu'on va laisser évidemment le mystère planer.
Il faut toujours.
Il faut exactement, mais ne venez pas embêter Laurent, parce qu'il vous découpe en coups de sabre laser. Et attention, il arrive à faire dire des choses aux esprits simples, comme Obi-Wan Kenobi. Je plaisante évidemment, chères auditrices, chers auditeurs, mais Laurent, c'était passionnant.
Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie parce que je n'ai jamais vu un métier comme ça. On pourrait dire, en étant très grossier, que c'est un métier d'événementiel, mais ça va beaucoup plus loin.
C'est beaucoup plus loin que l'événementiel.
Évidemment, ça va beaucoup plus loin, mais il y a cette partie-là aussi. Et moi qui fais de la communication, eh ben forcément, je sais à peu près ce que c'est. Mais alors, le protocole, c'est totalement différent. Donc, entre la sagesse de feu Jean Moulin, d'Obi-Wan Kenobi, de 6PO, non, t'es pas 6PO. Tu es surtout R2-D2, parce qu'il faut aussi avoir ce côté folie, même si on ne le montre pas. L'ordre dans la République, comme le disait Monsieur de Gaulle. Écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, quand on a un homme comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, et on dit merci. On dit merci Laurent, pas à moi, mais à Laurent Bellini, un homme formidable. Tu as été au top, Laurent, je te remercie.
Merci beaucoup.
Ciao, ciao.